franceinter.fr.
Ça se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec aujourd'hui la technique Emmanuel Mordinkan et Étienne Leroy. Et assisté de haut d'Émilie Judaïque, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Avec une petite humeur, parce que croyez-moi, docteur, l'écologie, je n'en peux plus. Vous comprenez ? Ma maison, j'ai misé sur le bloc béton pour l'isolation. Et j'utilise l'écran plasma pour éclairer le salon. Mon pavillon, je l'ai construit à la campagne, près d'une antenne relais. J'ai même 3 pylônes, car les opérateurs ne se sont pas mis d'accord. Alors ok, aujourd'hui, j'hésite encore entre le parpaing de Bulgarie et le granit de Chine pour les abords de ma piscine. Tous les jours, forcément, je prends mon auto pour aller au boulot. Mais j'ai choisi un 4x4 bio, comme sur la pub à tartiner du leurre, car c'est mieux la nuit pour la chasse au blaireau, à la chouette effraie qui ne fait même pas peur. Côté alimentation, je prône la proximité. Ah oui, d'ailleurs mes poules, génétiquement modifiées, face à un renard cette nuit, eh bien elles l'ont bouffé, mais oui. Bon, il nous arrive bien aussi de manger des lasagnes premier choix, dont j'ignore la provenance, mais comme il y a une fille avec une queue de cheval sur l'emballage, bah, évidemment J'ai craqué, j'ai acheté. Mon sachet de riz précuit a fait 3 fois le tour de la terre avant d'atterrir dans mon assiette. Le bouquet de crevettes roses souffre du décalage horaire. Les tomates farcies ionisées ont le teint rayonnant en plein hiver. Alors voyez-vous, nous, ce qu'on cherche quand même. Ce qu'on cherche, c'est une vraie bonne nouvelle. Et on l'a. Le printemps, qui a été recalé plein de fois ces derniers jours, va passer son bac avec succès. Dans le midi, le jaune des mimosas émit. Au pied du canigou, les pêchers sont en fleurs. Les oiseaux révisent leur partition, des trilles pour leurs belles. Viens, on va faire notre nid d'amour ensemble. Et comme rien n'est écrit, l'amour de demande qui a retrouvé une nouvelle chance. Mars, c'est la planète de la guerre, c'est le mois des fous. Mais la seule guerre qui vaille, c'est celle de la vie, devant nous et à fond. Le printemps, c'est aussi la nuit de la chouette. Oui, organisée ce soir par nos amis de la Ligue de la protection des oiseaux et son représentant, son président ici présent, et la Fédération des parcs naturels régionaux. Alors n'hésitez pas, éteignez les lumières à 20h, c'est le Grand-Duc qui régale. Et puis, bienvenue aux hirondelles et à leurs belles plumes. Mais comme nous sommes dans le temple des belles plumes, dans ce salon du livre, eh bien nous aussi, nous en avons autour de cette table. Mais d'abord, amis de France Inter, de ce haut de mon amour, de la nature, de l'écologie, comme au printemps que nous saluons, bienvenue à tous. Avec donc nos amis ici présents, Alain Bougrat-Dubourg, je le disais, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui tel, on va dire, Nils Holgersson, a garé son oie sauvage sur le toit du salon, n'est-ce pas ? Et donc nous a rejoint. Comment ça va, cher Alain ?
Je suis ravi d'être là et puis j'aime tant l'émission. Pierre Rabhi, pour moi, c'est un mentor, c'est un modèle indispensable. Une bouffée d'oxygène qui nous donne du courage quand on risque d'en manquer.
Alors, vous l'avez déjà bien présenté, cher Alain, Pierre Rabhi, à la fois petit homme frêle, mais enfermant une grande intelligence de l'aventure humaine, homme de l'agroécologie, de la sobriété heureuse, intellectuel et paysan philosophe, qui travaille depuis longtemps donc, à la fécondité de la terre et des esprits, et qui nous a enseigné cette très jolie légende amérindienne du colibri, où chacun doit faire sa part, c'est vraiment la clé. C'est un humaniste, on va dire, absolu, cohérent et aussi donc tout à fait radical. J'ai presque envie d'enchaîner avec le printemps, puisque vous êtes en Ardèche, que vous êtes dans une ferme et que c'est maintenant vous avez des terres qui en fait sont nées de cailloux. De cailloux que vous avez, on peut le dire, un peu transformé en cathédrale. Ce printemps en Ardèche, comment est-il en ce moment ?
Ben, il est pas mal handicapé, fluctuant, parce que la température n'est pas régulière et qu'il n'arrive. On n'arrête pas l'alternance entre la pluie et le beau temps sont tellement resserrés que le printemps a du mal encore à s'imposer.
C'est-à-dire qu'il a quitté ses congères, mais qu'il n'a pas quitté son pull vert, quoi.
Voilà, il est hésitant. Il est hésitant.
Alors, Pierre Rabhi, dans nos vies qui sont aspirées, on va dire, par la complexité mondiale, vous prenez, vous, régulièrement le pouls de la terre et des hommes. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ?
Ben, je ressens que la planète tout entière est convulsée. Et je reprendrai la formule de Fournier, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et donc, à partir de là, faire des pronostics, si vous voulez, c'est très difficile compte tenu de la complexité, évidemment, à laquelle nous sommes confrontés et compte tenu des paramètres qui s'ajoutent ou qui se retirent. Donc, à mon avis, jouer les pitis ou les prophètes me paraît extrêmement difficile.
Alors, la question fondamentale, on va dire, de nos vies personnelles, de nos vies amoureuses, professionnelles, c'est quand même celle du sens. Donc, oui. C'est celle de l'être. Alors, il y a ce qui relève, on va dire, de l'intime, et puis aussi du collectif et du terrestre. Pour y voir plus clair, enfin, comment ne plus, on va dire, subir ? Comment casser les inerties et comment reprendre du pouvoir sur sa vie ?
C'est-à-dire que c'est très difficile, puisque nous sommes installés dans un modèle de société qui a été déterminée en fait et presque réglée, disons, par la civilisation, la révolution industrielle, et avec tous les éléments qui sont rentrés dans l'organisation du monde, notamment la planète casino, enfin, la planète supermarché, la planète champ de bataille, la planète au pillage, comme disait Osborne déjà il y a quelques années. Et tout ça mis bout à bout, ça révèle véritablement que les évolutions, il y a eu des évolutions importantes, mais très peu d'évolutions de la conscience. Et le temps est venu de prendre conscience de notre inconscience.
Donc c'est sur quoi vous travaillez avec l'insurrection des consciences. Mais alors, on va dire que face à un monde qui dit ce qui importe vraiment doit être mesuré par la science et avoir un prix sur le marché, c'est-à-dire, bon, on va dire que la vie ressemble un peu à un tableau Excel aujourd'hui, quels sont les chemins de petits pas que l'on peut inventer ?
Je pense qu'en même temps que le modèle de société aujourd'hui est entretenu par une politique qui ne veut pas renoncer à ce modèle-là, qui le suit, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je constate que la société civile est devenue une sorte de laboratoire d'expérimentation, d'intérêt général, en partant du réalisme et de la réalité des gens dans leur vie quotidienne. Et c'est ça qui me donne le plus d'espoir, parce que je pense que le futur est déjà présent, mais il se construit évidemment sur les bases d'une toute autre idéologie. Et ce qu'il faut évidemment affirmer et ne pas se tromper en quelque sorte de vision et de perception. Mais si cette inventivité, c'est-à-dire ces innovations abondantes pouvaient être évidemment mises en commun et régenté, disons, par une conscience collective qui souscrit, disons, au fait de la nécessité d'un changement, je pense qu'il peut y avoir une très grande révolution positive.
Ce que vous nous dites, c'est que tous ces signaux faibles et toutes ces initiatives qui sont prises par donc, les uns et les autres ne font pas, on va dire, encore un grand sens collectif face à un rouleau compresseur que l'on connaît. Mais que voyez-vous émerger, quand même, je veux dire, concrètement, dans les initiatives qui vous plaisent, qui vous semblent intéressantes ?
Alors, ce qui émerge beaucoup, c'est que nous sommes en train de vivre une déconvenue. On a cru au progrès, on a cru à la domination de l'homme, à sa puissance, à régenter sa propre vie, à l'organiser, à l'orienter comme il l'entendait, etc. En faisant fi de la nature, en faisant fi du divin, enfin, peu importe si les gens croient ou ne croient pas. Donc le démiurge, c'est-à-dire l'être humain démiurge, s'est campé en disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Je vais prendre en main ma destinée, la destinée de l'humanité, et cette destinée va être affranchie de toute autre contrainte que celle qu'elle s'impose à elle-même. Et aujourd'hui, on est dans une énorme déconvenue, parce que finalement, on se rend compte que la société est de plus en plus dans la crainte de l'avenir. Le modèle maintenant n'assure plus rien, et on a l'impression qu'il y a un délitement général du système, et que ce délitement est pas du tout rattrapable.
Mais est-ce que ce sera, on va dire, le triomphe d'une raison dévoyée et piégée par une pseudo-rationalité qui ne cesse de ressasser, on va dire, sa croyance dans une modernité qui continuera à transformer le monde et pourtant, enfin, le transformer en immense supermarché, et pourtant on a une intelligence humaine novatrice et collective qui est, elle, sans borne et sans fin.
Alors, la question de l'intelligence est une question très, très, très subtile, dans le sens où je dis souvent, si des extraterrestres nous étudiaient, bien avancés nous étudiaient, diraient ils sont surdoués mais crétins. Parce que, en fait, on ne peut pas conclure que l'humanité est intelligente. Comment voulez-vous que je puisse conclure que l'humanité est intelligente quand elle donne plus de valeur aux armes, à la destruction, quand elle a une magnifique planète et que cette planète, elle est en train de la polluer, de la détruire de mille manières, quand on a du mal à instaurer le fait que nous sommes, l'espèce humaine est une et indivisible et qu'il serait temps de trouver une harmonisation entre les peuples. Quand on voit tout cela, là, évidemment, on a tendance à dire, mais où est l'intelligence? Parce qu'il y a une confusion, si vous voulez, entre l'intelligence qui est due aux performances cérébrales ou intellectuelles avec l'intelligence qui est d'une autre essence. La planète ne nous a pas attendus. Il paraît que si on fait le ratio temporel de la naissance de la planète et de notre avènement en tant qu'humain, ça serait 24 heures sur 3 minutes, je crois. Nous sommes là depuis 3 minutes. Mmh. Et quand on fait le bilan de ce que nous a... Alors, la planète ne nous a pas attendus. Et quand on fait le bilan actuel de ce que nous avons provoqué sur cette planète en si peu de temps, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait conclure que nous sommes un accident.
Ouais. Alain Maugrin-Dubourg, alors justement... Parce que...
Je pense, évidemment, Pierre Rabhi a raison dans son analyse. Je crois cependant... que la prise de conscience est avérée. Elle est avérée de la part de tous les décideurs et de la part des citoyens. Il y a une grande différence. C'est que les décideurs continuent de nous laisser croire qu'il faut qu'on dialogue pour voir comment on va faire pour changer les choses. Ce qui n'est pas idiot, c'est la conférence environnementale qui fait suite au Grenelle de l'environnement. Alors que les citoyens qui sont là, qui nous entourent et qui écoutent avec attention, ils disent « moi, à mon niveau, comment je peux faire ?» Et il y a une vraie demande. Alors, on a des réponses, pas toujours, mais on a beaucoup de réponses. Et il faut aujourd'hui véhiculer ces réponses pour que chacun puisse devenir acteur. Et c'est terminé le moment où on peut douter de l'échéance négative qui se dessine si l'on poursuit de cette manière.
Entre le climat d'un côté, l'érosion, voilà, de la perte de biodiversité de l'autre.
Je crois que tout le monde a compris qu'il y a une raison extrêmement simple. C'est la limite des ressources naturelles. Oui. Ça peut s'appeler l'eau, ça peut s'appeler le pétrole, ça peut s'appeler les oiseaux. C'est tout ce qui nous permet de vivre, dont on voit bien qu'on ne peut plus puiser dedans. Je vais parler des poissons, par exemple. Au moment où on parle, là se dessine la future politique commune de la pêche. Oui. Et on voit bien que près de 50% des quotas, stocks des stocks sont surexploités en Atlantique, plus de 80% en Méditerranée. Est-ce qu'on va continuer longtemps? Voilà, alors il faut changer.
Alors nous allons poursuivre ce voyage donc avec nos amis ici présents, donc Alain Maugrin-Dubourg, et on parlera aussi de ce dictionnaire passionné des animaux. Pierre est absolument dans l'actualité, on a vu un beau portrait de vous donc sur la 5 à Empreinte, dans le magazine Empreinte, et puis sort un film là dans les prochains jours qui s'appelle Au nom de la Terre. Voilà, alors là c'est aussi un superbe portrait, Au nom de la Terre, donc c'est vraiment, je vous le recommande chaudement. Il sera d'ailleurs aussi au Festival Atmosphère le 6 avril, me semble-t-il, à Courbevoie. Et un petit air de Maxime Le Forestier, ça vous va? Allez, on y va.
Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous qui sonne dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi, si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. La mousse a recouvert les lettres et déjà la pierre se fend. C'est sûr qu'avoir été vivant, c'est moins amusant que de l'être. On se dissout, on s'évapore, on se répand dans le grand flou. Que peut-il bien rester de nous? Quel fil de nous s'agite encore? Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous qui sonne dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi, si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. On laisse des traces ou des séquelles, des peintures ou des monuments. Les statues tombent forcément, gravitation universelle. Alors qu'un imaginaire qui se faufile de lèvre en lèvre et qui survit. Ça peut nous faire un paradis, viens, on s'en va danser tranquille, danser tranquille.
Électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors ?
Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends ? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Avec ses invités en direct du Salon du Livre, Pierre Rabhi et Alain Bougrain-Dubourg, j'ai envie, à travers ce dictionnaire passionné des animaux, où c'est en fait un regard sur la cohabitation entre l'homme et l'animal, entre ses réussites et ses échecs, que vous nous délivriez quelques petits vers de Claude Nougaro, que vous avez connu.
Oui, on s'entendait très bien. Il adorait les animaux et la nature. Et un jour, il me dit, Alain, je viens d'écrire un texte.
Je
si vais tu veux,
te faire
je
un texte te... plein voilà. de soleil sur
et
les animaux.
C'est extrêmement émouvant, puisque c'est finalement Tarzan qui va perdre sa jungle et qui voit la faune agressée. Alors, il dit à un moment, ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire, éléphants sacrés, massacrés, mémoire, et tous mes gorilles les ont fusillés, toute ma famille, à bas le blindé, mes hippopotames, mes crocos géants, des sacs pour les dames qui ont de l'argent. Ils ont décimé ou bien mis aux eaux le chant des pygmées, celui des oiseaux. Voilà, ça continue. C'est extrêmement émouvant et je crois que c'est très, très fort. Voilà.
Quelles sont les avancées et les échecs que vous avez pu voir sans remonter, on va dire, à 50 ans d'écologie, loin de là, mais quand même, aujourd'hui, vous avez été quand même un homme de très nombreux combats.
Oui.
Qu'est-ce que l'on voit ?
Je crois qu'on gagne toujours à terme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une course contre la montre et on n'a plus de temps à perdre. Alors, bon, des choses un peu singulières, ça a été le massacre des tourterelles, le braconnage des tourterelles dans le Médoc au mois de mai, au moment où elles viennent donner la vie. Il a fallu 20 ans pour faire respecter le droit, mais on a gagné grâce à l'intervention d'un préfet courageux qui a dit « Ben non, la France, elle a pas à se comporter comme ça, et contre les élus locaux, etc. » Un autre combat gagné qui me fait, dont je me rends fier au nom de la LPO, c'est celui de l'ERICA. 11 ans de procédure jusqu'en cassation et on a réussi à obtenir le préjudice écologique, c'est-à-dire la reconnaissance d'indemnité du vivant non commercial. Je veux dire par là que dans ce type d'affaires, très légitimement, on a indemnisé le poisson, le coquillage, l'huître, la moule, etc. Mais tout ce qui est vivant sauvage non commercial, la tortue, le phoque, l'oiseau, restez sur le côté. Désormais, ils sont pris en compte dans ce genre de drame.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, donc, homme qui essayait aussi de nous relier donc, à la nature, de ne jamais donc, l'oublier, ce que vient de dire Alain Pierre-Rabhi ?
Non, on ne peut que se réjouir s'il y a des avancées, effectivement, une meilleure conscience de cette réalité-là, de la vie. On ne peut que se réjouir de cela. Mais je pense que les problématiques aujourd'hui sont tellement vastes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. On a souvent tendance, et merci de tout ce travail qui se fait, bien entendu, mais je crois qu'il faut vraiment que nous mettions la problématique à l'échelle, à une autre échelle. Je pense que le monde occidental a tendance à circonscrire les problèmes à son propre territoire et à ce qu'il vit, lui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des milliards d'individus à côté, et que le destin collectif ne peut pas écarter, si vous voulez, l'humanité dans son entier comme étant impliquée dans le devenir. Donc c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui élargir à l'échelle planétaire les problématiques.
Alors là, ça nous fait d'ailleurs aussi une question, pardonnez-moi, parce que nous avons donc un auditeur, mais un spectateur dans le Salon du Livre. Je vous en prie, monsieur, vous avez le micro, donc bonjour à vous.
Bonjour Denis, merci d'abord pour votre émission, ainsi que celle d'Alain, qui sont, vous êtes des grands éveilleurs de conscience. Il y a beaucoup à faire. Après ce travail d'éveil de conscience, je vais demander à Pierre et puis Alain, est-ce que la solution, on ne va pas dire la solution miracle, mais est-ce qu'un grand pas ne serait pas à instituer une constitution planétaire sur laquelle chaque État devrait s'adosser? Et à partir de là, ce serait le premier travail de gestion de notre patrimoine, qui est la Terre et des biosphères. Et bon, vous allez me dire que c'est utopique, mais je reprendrai une définition de l'utopie de Théodore Monod, qui disait que l'utopie, c'était ce qui n'était encore jamais réalisé.
C'est un rêve qui ne s'est pas encore réalisé, voilà. Nous disait effectivement Théodore Monod. Alors, on est à la fois dans un maelstrom où les intérêts sont complètement, évidemment, divergents, où le flambeau de l'histoire, qui était, on va dire, occidental pendant 5 siècles, est passé entre les mains, maintenant, on va dire, de l'Inde, de la Chine, du Brésil, etc. On n'a qu'une seule terre malgré tout. Alors, effectivement, bonne question. Est-ce que pour l'éveil des consciences, est-ce que ça pourrait en faire partie?
Non, c'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que sous prétexte que des gens ont de l'argent, ils commettent un hold-up légalisé sur le bien commun. Le bien commun devrait aujourd'hui bénéficier d'une législation internationale parce que ce bien, il ne doit pas être privatisé. On privatise ce qui nous est nécessaire. Et il faut penser qu'il y a des générations qui vont arriver et que ces générations-là ne vont pas arriver sur un territoire privatisé. Si on caricature, on pourrait dire qu'il y aurait un cartel de grands financiers qui achèterait la planète et nous serions que des locataires. Donc il y a quelque chose de l'ordre moral, de la morale internationale, de la morale géopolitique qui s'honorerait de légiférer sur le bien commun non confiscable. Est transmissible absolument parce que ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. Donc là, on est quand même dans une problématique qui me préoccupe énormément, cette espèce de hold-up.
Bien sûr, on le voit sur Madagascar, sur une partie de l'Afrique, des terres qui sont achetées pour un siècle à minima par les Chinois ou par les Indiens. Oui. Mais je crois qu'on est condamné à avoir cette obligation de gestion au niveau planétaire. On n'y est pas encore, c'est très difficile, on le voit dans les conférences environnementales, et voyez-vous, Pierre, c'est pour ça que je crois beaucoup dans l'Europe, qui est restée complètement aveugle du reste du monde pendant trop longtemps, et qui aujourd'hui fait partie des blocs très importants qui peuvent emmener vers la prise de conscience l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine, comme le disait Denis, voilà. Et donc, même si on est un peu isolé, je crois qu'on progresse. L'Europe est une chance pour l'environnement. L'Europe est une chance pour la condition animale. Il y a une prise de conscience évidente qui tire les États vers le haut. Et à nous de faire la même démarche au niveau mondial.
Ben, disons, l'Europe a été le lieu où a été créée une certaine idéologie. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur tout le contentieux de l'Europe. L'Europe n'existerait pas si elle n'avait pas investi des territoires, si elle n'avait pas drainer les ressources de ces territoires et si elle n'avait pas dominé finalement le monde par une certaine idéologie. Cette idéologie qui est née en Europe, la première victime de l'idéologie européenne, c'est l'Europe elle-même. C'est-à-dire que quand on lit les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle, vous disiez qu'on passait dans l'Europe d'une province à une autre. Les gens ne s'habillaient pas de la même façon, n'avaient pas les mêmes architectures, n'avaient pas. C'est-à-dire que c'était des sortes de communautés qui avaient leur caractère spécifique. Et le drame de l'idéologie, c'est qu'elle est totalitaire dans le sens où elle est rentrée dans la standardisation généralisée du système. Système nord, système sud. Et cette standardisation donc, donne une forme de monoculture. Et vous savez que quand on crée une espèce de monoculture, eh bien, on fragilise les autres cultures. Et donc là, il y a une domination idéologique de l'Europe aujourd'hui à travers un système qui lui a supprimé sa propre identité pour finalement faire émerger ce système qui donne stupidement à l'argent le pouvoir absolu.
Ça se retrouve aussi très symboliquement dans le débat, enfin qui n'est pas un débat, qui est un vrai combat sur les semences aujourd'hui. Autrement oui. dit, sur la graine, qui est aussi, je dirais, une nouveau pensée fondatrice, Pierre Rabhi, où on souhaite avoir en gros trois variétés de maïs du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit la même chose partout.
Alors là, c'est une très très grande tragédie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens prennent conscience de cette énorme tragédie. Depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire l'avènement de l'agriculture, après que l'homme ait été chasseur, cueilleur, pêcheur, l'humanité n'a pas cessé de prélever des espèces dans le sauvage et de le domestiquer, c'est-à-dire de les intégrer au patrimoine de sa propre survie.
Et ça a duré. C'est pour ça que le roc est devenu après une vache,
etc. C'est incroyable. Ça s'est échangé. Même quand les gens allaient faire la guerre, ramener des graines un peu particulières, spécifiques, Alors la liste des graines que n'aurait pas l'Europe est immense. Elle n'aurait pas le maïs. Enfin, la liste est extrêmement longue. De même que l'Europe a fourni aussi à l'autre monde. Donc il y avait une sorte de mutualisation planétaire du patrimoine de survie de l'ensemble de l'humanité. Vraiment. Et aujourd'hui, il faut savoir que 60% de ce patrimoine a déjà disparu. C'est-à-dire que ce patrimoine, il avait l'avantage d'être transmissible, de génération en génération. Aujourd'hui, on est dans le brevetage. On est dans cette horrible chose qu'on appelle les OGM. On est donc dans la confiscation graduelle à l'humanité de son pouvoir de survie. Et les gens, je suis étonné que les gens ne mesurent pas la gravité et l'enjeu terrifiant qui est en train de s'installer. Ouais.
Alors, il y a les graines, il y a les races domestiques dont vous parliez, tout, Pierre. Tout. Je crois de mémoire qu'au début du siècle dernier, il y avait au moins une quarantaine de races différentes de porcs. Aujourd'hui, il en reste quatre qui assurent le marché. Et on voit que ça fragilise l'avenir au-delà. Et que par ailleurs, ça conduit le vivant à être la propriété de grands groupes isolés. Qui décide pour nous tous.
Privatiser.
Et vous voyez, si je peux me permettre, souvent la condition animale à laquelle je suis très attaché a du mal à s'inscrire dans cette réflexion à la fois socio-économique. Vraiment, traiter bien ou mal l'animal, c'est secondaire. Je crois que c'est essentiel. Et on voit, par exemple, dans la crise qui nous affecte aujourd'hui, où on transforme le bœuf en cheval, que ça va nous conduire. Je crois que c'est une bonne chose. Qu'on découvre tout ça. On le savait, bien sûr, on savait les lobbying, on savait les saletés, on savait les trafics. Aujourd'hui, ça apparaît au grand jour. Et ce qui me paraît heureux, c'est que ça nous amène à davantage de contrôle et de traçabilité. Malheureusement, il faut en passer par là. Mais je demande à ce que la traçabilité ne soit pas seulement qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, mais comment ce qu'on a dans l'assiette est arrivé.
Donc traçabilité
clair,
de la condition animale.
La condition animale sur l'élevage et sur l'abattage. Je respecte totalement les confessions, mais considérer qu'on fait de l'abattage rituel en engendrant une souffrance, puisqu'il n'y a pas une sensibilisation, et ça peut conduire des bovins, par exemple, à souffrir pendant 13 ou 14 minutes de plus. Je suis désolé de le dire. Alors, bon, si certains...
Non, mais soyez pas désolé.
Si certains, je respecte ceux qui ont des confessions qui conduisent à cela, mais moi je refuse que dans mon assiette j'ai de la viande, encore que je mange pratiquement plus de viande, mais dont il n'y aurait pas la traçabilité. Or aujourd'hui, l'abattage rituel peut conduire à mettre des animaux dans l'assiette des consommateurs sans qu'ils sachent dans quelles conditions les animaux ont été abattus.
Et il paraît que vous avez arrêté les ortolans aussi dans votre menu.
J'ai arrêté les ortolans. Ça, c'est pour lundi, la France.
Si je puis me permettre, je pense qu'il ne faut pas qu'on se... Il faut aller vers le détail, mais il ne faut pas se perdre dans le détail. Le problème
aujourd'hui,
c'est un problème de société. Ouais. Il est anormal que les communautés se nourrissent avec des denrées qui font des milliers de kilomètres alors qu'elles peuvent être produites là où nous sommes. Ça, déjà, le premier problème, c'est produire et consommer localement et non pas aller chercher des choses à des milliers de kilomètres.
On va dire dans un rayon de 250 kilomètres. Parce qu'on peut
répondre aux besoins élémentaires directs, déjà, là où nous pouvons le faire. Quand je vois les villes, cette concentration des villes, et du monde urbain avec désertification de l'espace rural, c'est une absurdité totale. Une absurdité totale. Paris devrait pouvoir être nourrie entièrement avec ce qu'elle peut produire dans sa périphérie, avec de bonnes terres. Alors en plus, cette question de l'alimentation, nous sommes en train d'être alimentés par des aliments toxiques. Des aliments toxiques. Ils sont produits sur des terres qui sont gavées d'engrais chimiques. C'est pour ça que je dis de façon humoristique, bientôt quand on se mettra à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Oui, parce que c'est absolument c'est pas vrai. Ce qu'on est en train de bouffer, comme on dit, puisqu'on parle de bouffe, on parle plus de nourriture, on parle plus de la grâce de la nourriture, de la beauté de la nourriture. On a évacué toute gratitude, on a évacué tout ce qui donne à la vie son charme et sa beauté pour n'être que pratico-pratique. Et la nourriture aujourd'hui est dangereuse, il ne faut pas l'oublier, elle est dangereuse.
Mademoiselle, dans le public, une question, je vous en prie.
Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure du rôle de l'Europe en tant que moteur d'un mouvement de conscientisation écologique, en quelque sorte. Mais n'est-ce pas particulièrement délicat pour cette Europe-là, justement, de donner des leçons au reste du monde sur ce sur quoi elle a échoué ?
En imposant des normes environnementales.
Oui, je crois qu'on n'en est plus à revisiter le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir ? Et vous voyez, pour n'en rester qu'à la biodiversité, quand vous voyez des conférences, moi j'étais présent à Hyderabad en Inde derrière moi et juste avant au Japon, et on voit que ce sont des rapports de force des grands groupes et qu'on a tous conscience qu'il faut maintenant normaliser l'avenir dans le bon sens, le sens durable. Et que ça vienne des Chinois, que ça vienne de l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou de l'Europe, peu importe. L'important, c'est que l'intelligence soit entendue. Le problème, c'est qu'à travers ces différents blocs, on voit que les lobbyings continuent d'avoir une puissance et un pouvoir considérable.
Supérieur aux États,
on ne le mesure pas. Oui, on ne le mesure pas assez dans l'opinion publique. Hein, Pierre ?
Oui, mais cette puissance, elle est donnée par les gens.
Bien sûr.
Quand je vois ces brigades de gens, de pousseurs de caddie, évidemment, moi je ne m'explique pas de l'incohérence dans laquelle je suis. Je ne roule pas en char à bœuf, j'ai ma voiture, j'ai etc. Donc je donne de l'argent à Total, à je ne sais pas qui. On est tous impliqués dans cette question-là. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons repenser le vivre ensemble sur d'autres critères que les critères actuels ? Et les critères actuels, elles stimulent quoi ? L'insatiabilité humaine, le toujours plus indéfini, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et si les pays dits émergents rentrent dans ce scénario, où voulez-vous que nous prenions les ressources sur cette planète, cette pauvre planète ? C'est impossible. Donc il faut être clair, notre modèle de société n'est plus viable et n'est pas
transmissible. Rien pour l'eau, Pierre, si je ne me trompe pas, ceux qui ont la chance d'avoir accès à l'eau, les plus faibles, hein. C'est 50 litres par jour et par homme. En France, c'est globalement 150 litres. Aux États-Unis, c'est 300 litres par jour et par homme. Est-ce qu'on peut imaginer continuer de cette manière ?
Impossible.
La réponse est clairement non.
Impossible. Voilà.
D'où votre ouvrage, Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, aux éditions Actes Sud, parmi d'autres ouvrages. Je vous propose d'écouter Valérie June et nous revenons toujours en direct au Salon des Livres. Et vous êtes bien sur France Inter, si.
Thank you.
Valérie June sur France Inter dans CO2 Mon Amour. Je ne pense pas qu'elle parlait de la condition animale, mais donc autour de la table, vous l'avez compris en direct, Alain Bougrain-Dubourg, Pierre Rabhi avec nous. Il y a, alors je tenais à dire tout de suite qu'il y a une revue qui est très bien faite qui s'appelle Kaizen. Alors Kaizen, qu'est-ce que c'est? Ben, Kaizen, ça veut dire changer le monde à petits pas en japonais. Voilà. Et donc sur ce numéro, eh bien, vous avez Il était une fois Pierre Rabhi. C'est donc toute l'histoire de Pierre Rabhi. Il y a une personne dans la salle qui ne veut pas poser la question, mais qui m'a dit ce qu'on pourrait lui demander si un jour il va se représenter à des élections. Je pense que la réponse est non, mais bon.
Non, Dieu m'en garde. Ouais. Non.
Non, mais parce que vous ne croyez pas en la chose politique ou bien parce que c'est...
Non, j'ai fait une première expérience en 2002. Oui. Donc on m'a poussé à me présenter. J'ai beaucoup hésité parce que, en fait, je ne pense pas, sans critique pour les politiques, les âmes sont ce qu'elles sont, les consciences sont ce qu'elles sont. Je n'ai pas à les juger. Mais par contre, le scénario politique, c'est-à-dire la politique telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas en phase avec la réalité du monde dans son évolution, si nous voulons vers une évolution pérenne, bien entendu. Donc, quand on m'a poussé en 2002, après bien des insomnies, je me suis présenté assez tard, puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut profiter du débat public pour avancer certaines valeurs qui ne sont jamais évoquées par le politique. Hein, le féminin au cœur du changement, changer l'éducation... Évidemment, incarner l'utopie, l'histoire de l'agriculture, l'histoire, etc. Et le grand blasphème, la décroissance.
Ah oui. Bon.
Alors, ça, c'est le grand blasphème qui m'aurait valu d'être.
Être élu sur la décroissance, c'est ça. Fort, quand même.
Alors, définition pour vous de la décroissance.
Alors, je finis simplement le fait que le résultat n'a pas été mauvais. Et elle nous a beaucoup encouragés, puisqu'on a presque eu 200 signatures d'élus. On a eu une quarantaine de conférences avec des salles pleines et on a instauré le débat qui en fait va chercher les thématiques fortes de la pérennité de l'humanité et non pas simplement les différents contextes ou conjonctures historiques. Au-delà des conjonctures historiques, il fallait poser les problèmes de la durabilité de l'humanité et de son chemin de destin. Donc ça nous a été un énorme encouragement de penser que nous n'étions pas tout seuls à délirer dans notre coin avec des valeurs qui ne semblaient pas tellement résonner dans la société telle qu'elle était. Et donc, du coup, ça a été, continuons, voilà.
Et pour vous, donc, décroissance, renoncer au modèle du toujours plus ?
C'est-à-dire que il y a d'ailleurs une première réalité incontournable. Nous sommes sur une planète limitée. Il y en aurait une autre à côté, on dirait, bon, une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira ailleurs.
On va pas aller sur Mars tout de suite, on ne va pas trouver grand-chose. Et donc, oui, donc, c'est une loi physique.
Cette réalité limitée est une évidence absolue à partir de laquelle il fallait construire notre mode d'existence sur cette planète. Il y a des choses qui se reproduisent. Heureusement, la nature est prodigue. Un grain de blé peut nourrir l'humanité. C'est extraordinaire. Donc, il y a ce côté. Et puis, il y a ce qui s'épuise et qui ne se renouvelle plus. Donc si nous sommes dans le paradigme du toujours plus indéfini, avec un être humain qui est constamment manipulé à être insatiable, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'insatiabilité permanente, vous n'atteindrez jamais, en quelque sorte, la sérénité et la satisfaction.
C'est le principe de la publicité et du marketing, qui fonctionne à la fois sur le mimétisme et sur la frustration.
C'est la manipulation. La publicité, ce qu'on appelle des manipulations mentales, c'est-à-dire qu'on va chercher le subliminal, c'est-à-dire qu'on atteint l'homme par le côté fragile de sa personne, par les symboliques, par tout ce qu'il fragilise, et on le manipule à n'être jamais content, jamais satisfait, il y a toujours quelque chose de nouveau qui est encore mieux que ce qui a été, etc., etc. Mais au fond, on a besoin de quoi, l'humanité? On a besoin de manger, on a besoin d'être vêtu, on a besoin... D'avoir un toit sur sa tête, on a besoin d'être soigné. Non, mais là, ce qui n'est pas résolu sur la planète.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas résolu.
Comme vous êtes issu d'une double culture, à la fois religieuse et puis aussi de terre, donc vous êtes né dans une oasis du sud de l'Algérie, il y a aussi tout ça qui vous a formé, je dirais, dès le départ. Alors que d'autres petits occidentaux vont naître, de toute façon, avec obligatoirement le dernier appareil qu'on va leur demander de changer tous les 18 mois.
Oui, mais quand je vais dans ces pays frugaux, je vois des gens heureux, et dans la frugalité. Je reviens en Europe et je consulte la consommation d'anxiolytiques et je me rends compte qu'elle grimpe constamment. il y a une espèce de misère intérieure. Il n'y a pas, il y a probablement pas la misère matérielle, mais il y a une misère intérieure de gens qui souffrent de leur intériorité. Pourquoi ils souffrent de l'intériorité ? Parce que tout est nourri sauf cette intériorité. Et comment aboutir à justement à cet équilibre entre ce dont on a besoin pour notre vie matérielle et ce dont on a besoin pour notre vie intérieure ? Nous avons besoin d'équilibrer les deux. Eh bien, on ne peut pas être dans l'outrance de la consommation matérielle et prétendre aussi avoir la nourriture intérieure. Donc il y a ce déséquilibre qui fait qu'on n'est jamais dans la satisfaction. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il faut bon sang, il faut apprendre à faire le bilan de ce que nous avons et qui devrait déjà nous satisfaire, plutôt que d'être toujours dans « qu'est-ce qui me manque ?» Et donc on n'atteint jamais la satisfaction, et c'est pour ça que ce monde est difficile.
Et d'où cet axe clair engagé et tranché chez vous, ça a vraiment provoqué une insurrection des esprits, et on la retrouve dans cette sobriété heureuse. Jeune garçon qui s'appelle Pierre Châtelon, que j'ai connu à l'âge de 18 ans, qui doit en avoir 23 aujourd'hui.
Bonjour Pierre Rabhi, voilà. Vous dressiez tout à l'heure un tableau assez noir de l'agriculture. Vous êtes un promoteur de l'agroécologie. Quelles sont les initiatives qui naissent ici ou là aujourd'hui et qui sont porteuses d'espoir pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Je vous remercie de cette question, puisque je suis au cœur de cette problématique. Je suis totalement au cœur de cette problématique et depuis déjà une cinquantaine d'années. C'est-à-dire l'interrogation finalement sur la survie de l'humanité par l'agriculture. Cette survie de l'humanité par l'agriculture, elle est passée de principes et de méthodes dites paysannes, à des méthodes dites modernes. Les méthodes dites modernes ont inclus dans le champ du vivant, c'est-à-dire de l'agriculture, des éléments qui sont du champ du minéral, c'est-à-dire de la substance chimique. On a chimisé en quelque sorte l'activité agricole par les intrants que l'on met dans la terre, les plantes qui sont malades, évidemment, parce qu'elles sont déséquilibrées. Étant malades, on a recours à des pesticides. Et ces pesticides sont de plus en plus violents, etc., etc. D'où une nourriture qui n'est pas parfaite pour l'alimentation humaine. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir, parce qu'on commence à parler d'agriculture biologique, d'agroécologie. J'ai mené beaucoup d'actions au nord, au sud. On a des institutions, des structures. Si vous allez sur Internet, vous verrez que nous ne nous sommes pas contentés de proclamer les choses, mais que nous sommes dotés d'outils au service de cette démarche. Produisons notre nourriture, mais respectons le patrimoine qui nous nourrit, respectons la terre, respectons l'eau, respectons tout ce qui nous permet de survivre. Mais on ne peut pas produire et détruire, ça a une limite.
Et puisque nous sommes au printemps, cher Alain Bourin-Dubourg, et que vous dressiez aussi un certain nombre de portraits d'animaux dans ce dictionnaire passionné des animaux chez Delachaux et Nessier, il y a un animal que vous aimez bien. C'est le martinet que l'on entend. Alors, il est peut-être déjà dans le midi.
Je connais, Pierre, le martinet. Oui, non, il n'est pas encore là. Il est frustrant parce qu'il arrive tardivement par rapport aux hirondelles. On va dire qu'il arrive fin avril par là et il part très tôt. Il part mi-juillet, mi-août, et déjà, c'est la fin des vacances. Alors, on l'entend parce qu'il y a des cris stridents, là, qui déchirent l'atmosphère le soir. Et cet oiseau, il a une singularité, c'est qu'il vit dans le ciel. Il boit en vol, il dort en vol, il dort en vol.
Incroyable.
Il mange en vol, il fait l'amour en vol, et voilà, c'est un oiseau. Alors, il ne se pose que pour pondre 2 ou 3 œufs. Et pour couver, ça dure une vingtaine de jours. Il va y avoir près de 40 jours pour élever les jeunes. Et les jeunes vont sortir, ils vont s'accrocher avec leurs petites griffes à l'anfractuosité du mur. Ils n'ont aucune éducation, personne ne leur a jamais appris. Ils vont battre un peu des ailes et hop, ils vont prendre le grand envol. Et là, ils vont devoir en quelques heures apprendre à manger et à voler. À voler si loin qu'ils dormiront comme leurs parents dans le ciel et ils repartiront faire près de 6000 km pour aller passer l'hiver au sud de l'équateur en Afrique.
Eh bien, comme les martinets et comme vous tous ici, eh bien, c'est Charles Aznavour qui va nous chanter.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Oui, formidable la vie, malgré tout ce que nous connaissons. En tout cas, ça a toujours été l'axe de CO2, mon amour. De ne pas aller se fouetter sur une colline comme un millénariste, loin de là, bien au contraire. Alors parlons, tenez, rapidement, Alain, condition animale, qui est quand même aussi, je ne vais pas dire un de vos chevaux de bataille, parce que ouais, on n'est pas sûr que ce soit du cheval, mais enfin bon.
Non, c'est simple, c'est le statut de l'animal en France, dans le code civil. L'animal est encore...
C'est un objet.
Un objet, tout simplement. Alors c'est Napoléon qui a initié ça, on peut penser qu'à l'époque il avait autre chose à faire. Mais je considère aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, que s'il est légitime que l'homme soit sujet de droit, il n'est pas normal que l'animal reste objet de droit. Et moi, je me suis battu, notamment au Conseil économique, social et environnemental et auprès des chambres, pour tout simplement qu'on réfléchisse. Ça ne changera pas la face du monde, mais je crois dans la valeur des mots et des textes. Voilà. Quand je vois qu'on remet encore la cravache d'or pour rendre hommage à un cavalier et son cheval, je trouve ça un peu con, la cravache d'or, l'éperon d'argent, des objets coercitifs. Voilà, bon, et ben, ça procède un peu de la même démarche. Je crois qu'il faut aller vers le respect du vivant. Quand on voit que les animaux de laboratoire, c'est du matériel biologique, ça n'invite pas les petits laborantins à bien les traiter. Voilà. Ce sont des petites choses simples, mais c'est le colibri de Pierre Rabhi, non, Pierre ? C'est un peu ça.
Non, mais je souscris totalement, totalement à ce que tu dis, dans le sens où on inflige aux animaux tous nos caprices et on les considère comme subordonnés. On les considère comme être à notre disposition. On s'honorerait quand même d'aimer et de rester ces êtres qui partagent notre destinée finalement.
Et dont nous dépendons.
Bien entendu. Ouais. Mais le problème, c'est que l'humanité a oublié que nous étions aussi des mammifères. Nous sommes aussi des mammifères.
Nous sommes des animaux. Il y a une phrase moi, que j'aime bien de Martin Luther King qui dit qu'en fait, le mal causé par les gens qui sont mauvais est du même niveau que l'inaction des bons. Alors, par quelles petites choses on peut commencer pour entraîner, on va dire, cette insurrection des consciences, pour nous aider à sortir d'un monde d'illusions ? C'est tout le travail de l'association du Colibri.
Oui. Mes propos ne vont pas être moralisateurs, ils vont être simplement réalistes. Je ne pense pas que la société puisse changer si l'être humain lui-même ne change pas. Puisque c'est lui qui construit le monde tel qu'il est, et le monde tel qu'il est le reflet de ce qu'il est lui-même dans sa posture intérieure. Et je pense que oublier que le changement de société ne peut se faire que par le changement humain, et que le changement humain ne peut se faire que par le changement de chacun de nous, c'est encore se leurrer. c'est encore se leurrer. Je peux aller protester, manifester, m'indigner, etc. et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui sont autour de moi.
Oui.
Vous voyez ? Donc il faut faire très attention à ne pas croire que parce qu'on a fait des belles proclamations ou qu'on a pris des belles résolutions, que le monde va changer.
Alors,
c'est l'être humain qui doit changer.
Au-delà de cela, je crois qu'il y a un geste extrêmement simple à faire, c'est adhérer à une association de protection de la nature. Il y en a près de 3000 en France, par rapport aux anglo-saxons, aux pays nordiques. On est vraiment en retard, en repli, et c'est très dommage parce que si on veut bouger le curseur, il faut être représentatif, et pour être représentatif, il faut être nombreux. Oui. Donc vraiment, moi, je vous invite tous à adhérer à une association de protection de la nature, ne serait-ce que par solidarité. Et ensuite, c'est un tissu.
Tissu. Qui n'est pas fichu.
Voilà. Ça fait partie de ma singularité.
Jamais.
Voilà, le tissu, c'est off. Oui. Voilà, c'est un tissu qui permet de véhiculer le message et qui rapproche les gens.
Alors, un grand merci. Voilà. Je crois qu'on peut les applaudir. Hein. Pierre Rabhi, Alain Bougrain-Dubourg. Dictionnaire passionné des animaux pour Alain Bougrain-Dubourg, évidemment, que l'on retrouve tous les dimanches à 15h. Vivre avec les bêtes, Pierre Rabhi, Le Champ de la Terre, ça c'est un portrait à la table ronde, vers la sobriété heureuse aux éditions Actes Sud. D'autres aux éditions Actes Sud, vous les retrouverez sur le site de CO2 Mon Amour. Je vous présente ma copine de radio, qui est Clara Dupont-Monod, vous voyez, et qui fait tous les jours, tous les samedis à 15h, donc son émission Clara et les Chicliffes, qui a appris des tas de choses. Hein, là, aujourd'hui, c'était voilà.
Merveilleux. Je vous chasse le salut, comte de Chessou. J'allais dire, je vous chalue.
Mais oui, parce que duchesse, comtesse, on sent bien que la Révolution n'a pas fait complètement son boulot. Donc
non,
voilà,
c'est vrai, il y a des lacunes, hein. Et nous en sommes une.
Oui, c'est merveilleux. Vous recevez alors un homme étonnant qui a eu, je dirais, entre guillemets, un front de commerce avec Nicolas Sarkozy, qui est maintenant là avec François Hollande.
Voilà, monsieur Patrick Rambaud, qui va être avec nous tout à l'heure et qui montre que la cour n'a pas pris une ride.
Alors un grand merci à Emmanuel Mordincamp et Étienne Leroy à la technique, à Aude-Émilie Junaïque, notre assistante, à Christophe Imbert qui réalisait cette émission, Jean-Baptiste Audibert a choisi les disques, Anne Gouzon a nourri les sites, et puis l'actu du Mon Petit Loup, livre pour enfants, eh bien ce sera 19h54 demain après les petits bateaux, et la semaine prochaine on parlera vraiment de l'arrivée du printemps, on va faire un tour de France du printemps dans CO2 Mon Amour. Salut à tous.